Tite 1, on va lire tout le premier chapitre. De la part de Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. J'ai été chargé d'amener ceux que Dieu a choisis à la foi et à la connaissance de la vérité qui est conforme à la piété, afin qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle. Le Dieu qui ne ment pas l'avait promise avant tous les temps, et au moment voulu, il a révélé sa parole par la prédication qui m'a été confiée sur ordre de Dieu notre Sauveur. À Tite, mon véritable enfant dans la foi qui nous est commune, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens dans chaque ville en suivant mes instructions. Des hommes irréprochables, fidèles à leurs femmes, dont les enfants soient croyants et ne soient pas accusés de débauche ou insoumis. En effet, en tant qu'intendant de Dieu, il faut que le responsable soit irréprochable. Il ne doit pas être arrogant, colérique, buveur, violent, ni attiré par le gain. Il doit, au contraire, être hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint, maître de lui, attaché à la parole, digne de confiance telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable à la fois d'encourager les autres par la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Il y a en effet beaucoup d'hommes insoumis, des discoureurs creux et trompeurs, surtout parmi les circoncis. Il faut leur fermer la bouche, car ils bouleversent des familles entières en enseignant ce qu'il ne faut pas pour un gain honteux. L'un d'eux, leur propre prophète, a dit « Les Crétois, toujours menteurs, de méchantes bêtes, des goinfres paresseux. » Ce témoignage est bien vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables juives et à des commandements émis par des hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Bien plus, leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leur manière d'agir. Ils sont abominables, rebelles, incompétents pour la moindre œuvre bonne.
Je profite de l'occasion pour mentionner dans le bulletin que vous avez reçu, si vous recevez les bulletins chaque semaine par email, qu'il y a une parole en binôme, une formation de la parole en binôme qui va commencer dimanche prochain à 16h15. Et tous ceux qui sont intéressés, face au défi d'étudier la Bible et aussi face au désir peut-être de partager avec quelqu'un, il y a une formation qui se fait en 4 sessions avec une 5e bilan quelques mois plus tard. Les dates sont de nouveau dans le bulletin. Vous pouvez aussi le trouver sur le site. Mais c'est l'occasion pour vous d'être formé dans ce domaine, à la fois dans l'étude de la parole, mais aussi de la manière de faire une étude avec quelqu'un. Et les personnes qui forment sont Cécile Malouf, et il y a aussi Margaret Trévisan et moi-même. Et on sera très contents si vous voulez poser l'une ou l'autre question, savoir comment ça fonctionne. Il y a quelques-uns ici qui ont déjà fait cette formation. Je poursuis donc avec ce texte. Tite. Tite, c'est le nom d'un collaborateur de l'apôtre Paul. On voit ici un peu du contexte. Il écrit l'apôtre Paul à Tite, qu'il a laissé en Crète. On pense que Paul s'est rendu avec Tite après sa première détention à Rome. Et on voit qu'il a dû partir. Et cette lettre est donc adressée à Tite, qu'il a mandaté pour poursuivre ce qui a été commencé. En sachant qu'il est parti, quelles recommandations lui donner, comment l'encourager dans sa tâche. Et c'est ce qu'on va voir ce soir. Et la question que j'aimerais d'abord poser pour nous mettre un peu en contexte, c'est est-ce qu'il y a des contextes où la foi en Jésus telle que la Bible enseigne vous paraît improbable? Des contextes que vous connaissez ou peut-être des personnes que vous côtoyez où vous vous dites mais je vois tout simplement pas comment ça pourrait être possible que telle personne s'intéresse à l'évangile. Ou alors que dans tel quartier ou dans telle dans telle région ou dans tel pays, il y a un véritable intérêt pour l'Évangile. Ça paraît trop éloigné, impensable, impossible. Et pas simplement parce que Jésus est peu ou pas connu, mais aussi parce qu'il y a, sur le plan des valeurs, un tel fossé. Peut-être vous pensez à vos contextes d'études ou de travail, ça paraît tellement décalé que je vois difficilement comment il pourrait y avoir cet intérêt pour l'Évangile. Ben avec la lettre de Tite, c'est le genre de contexte dans lequel on entre et on devrait être encouragé par ce qui va être dit. L'apôtre Paul, alors ça c'est pas un encouragement, mais au verset 12, il cite un poète crétois qui dit la chose suivante: « Les Crétois, toujours menteurs, de méchantes bêtes, des goinfres paresseux. » Alors, peut-être dans un premier temps, ça fait sourire. Est-ce qu'ils sont si méchants que ça? Eh bien, effectivement, ils l'étaient. En dehors de l'apôtre Paul qui cite ce poète, on a des échos de cette culture qui était marquée par la corruption. Plutarque, un contemporain, par exemple, fait allusion à une légende en disant qu'il n'y a pas de bêtes sauvages sur l'île de Crète. Il n'y a pas de bêtes sauvages. Est-ce que c'est vraiment un souci? Parce que les habitants, eux, sont des bêtes sauvages. C'est une manière à lui de mettre en évidence la corruption. Suétone, qui a vécu entre 70 et 130, choisit un synonyme pour menteur, et vous l'avez dans le mille, crétois. Crétois, c'est la même chose. On ment, on est crétois. C'est la même chose. La Crète, c'est un bon exemple. Et ça, c'est de nouveau dans ce texte, mais en dehors du contexte de la Bible, c'est l'équivalent. Si on veut voir un endroit où le mensonge, la violence, la corruption règnent, ben, à cette époque-là, on se tourne vers la Crète. Et peut-être que si on est croyant ce soir, on a des contextes, l'un ou l'autre contexte, qui nous semblait tellement éloigné de la foi. Un contexte où ça nous paraît difficile de voir la foi pénétrer une région, un quartier, des personnes. Et là encore, la lettre de Paul à Tite doit nous encourager. Le plan que je vous suggère est le suivant. Dieu ne ment pas dans les versets 1 à 4. Il y a comme un condensé, une introduction condensée qui nous annonce le reste de la lettre. Et ensuite, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils sont, on verra deux groupes de personnes. Il y a d'abord les anciens. Et ensuite les faux enseignants. Mais on va commencer avec Dieu ne ment pas. Et on a ici la deuxième introduction à une lettre, la plus chargée, la plus compacte pour l'apôtre Paul. Il y a beaucoup de choses dedans. On ne va pas pouvoir faire le détail de tout, mais il y a quand même des choses intéressantes à relever. Comment déjà l'apôtre Paul, alors qu'il écrit la lettre, comment est-ce qu'il se présente? Eh bien, de deux façons, il se présente comme serviteur de Dieu. Littéralement esclave de Dieu, il est soumis à Dieu, dédié à lui, et apôtre de Jésus-Christ. Il se sait envoyé, mandaté par Jésus-Christ. Et c'est intéressant de voir le mélange des deux. Ce n'est ni un tyran, dictateur, qui doit imposer sa manière de faire. Non, il est esclave de Dieu. Mais ce n'est pas non plus un épouvantail qui se laisse emporter, qui ne fait peur à personne. Non, il a été mandaté par Jésus-Christ. Il est apôtre de Jésus-Christ pour écrire ce qu'il écrit. Et qu'est-ce qu'il doit faire? On trouve un résumé. Amener ce que Dieu a choisi à la foi et à la connaissance de la vérité qui est conforme à la piété. Et là, on entend que son ministère s'inscrit dans l'œuvre souveraine de Dieu. C'est Dieu qui attire à lui. C'est Dieu qui suscite la foi. Il est conscient que c'est Dieu qui sauve, mais Dieu utilise l'apôtre Paul pour amener ces personnes à la foi et à la connaissance de la vérité, qui est conforme à la piété. La foi, on comprend assez aisément, mais par piété, qu'est-ce qu'on entend? Piété, c'est une manière de parler de l'attachement à Dieu, une personne qui vit d'une manière qui correspond à ce que Dieu attend. Et la vérité a un lien avec cette piété dans cette affirmation ici, dans cette expression. Alors il y a des vérités qui n'ont pas beaucoup d'impact pour nous. Je vais prendre un exemple que j'ai choisi hier soir. Hier dans les nouvelles, on avait l'arrivée du Dakar, Dakar 2018. Qui a gagné? Carlos Sainz. Est-ce qu'il y en avait d'autres qui le savaient ici? Bon, déjà, vous êtes ignorants de la chose. Est-ce que cette vérité va vraiment changer votre vie, transformer votre personne? Alors, on a quelqu'un quand même de renseigné, mais même pour Paul, ce sont des vérités qui changent, qui transforment la vie? Probablement pas. L'apôtre Paul, lui, est convaincu que la bonne nouvelle qu'il proclame a la puissance pour apporter des changements dans des vies. Il en est convaincu que la bonne nouvelle de Jésus-Christ peut apporter des changements concrets dans la vie des personnes. Et plus que cela, c'est cette bonne nouvelle qu'il proclame donne une espérance éternelle. Éternelle. Si on côtoie des gens qui sont proches de la retraite et qui ont peut-être encore quelques années, j'en côtoie quelques-uns dans mon voisinage, on les entend parler de la retraite et on entend un peu que le simple fait de savoir qu'ils ont quelques années avant la retraite, ils ont encore un deuxième souffle en se disant « bientôt la retraite, bientôt la retraite ». La simple promesse de la retraite, elle encourage, elle motive pour la dernière ligne droite. Mais ici, c'est l'espérance de la vie éternelle que l'apôtre Paul présente. Alors peut-être vous me direz, oui, mais la retraite, c'est plus concret. C'est unanimement reconnu par tous ceux qui nous entourent. On en parle. C'est clairement mis sur la table, alors que l'espérance de la vie éternelle, tout le monde n'y croit pas. Mais comment est-ce que l'apôtre Paul la présente, cette vie éternelle? Verset 3. Le Dieu qui ne ment pas, le Dieu qui ne ment pas l'avait promise avant tous les temps. C'est une promesse de Dieu. Et Dieu ne ment pas, autrement dit, il n'est pas crétois. Imaginez-vous dans la culture de la Crète à l'époque, et quelqu'un vous dit, vous êtes là comme un titre ou autre, demain je viendrai travailler avec toi sur le chantier de ta maison, je te promets. Ou alors quelqu'un d'autre qui vous dit, je te rembourserai, dans six mois, j'aurai tout remboursé, je te promets. Et vous êtes à Crète, vous êtes en droit de vous poser la question, est-ce que je vais te rembourser? Est-ce qu'il sera là demain? Mais ici, c'est la promesse du Dieu qui ne ment pas. Promesse du Dieu qui ne ment pas. Elle est si fondée, si établie qu'elle remonte à l'éternité passée. Il met l'accent sur une parole qui a traversé les âges. Elle est fiable. Au verset 3, il semble, l'apôtre Paul, vouloir faire référence à cette parole qui, lui, l'a interpellée. Il fait référence à sa vocation et c'est l'occasion de se souvenir de ce moment où il a été complètement retourné comme une crêpe, en quelque sorte. On se souvient que sur le chemin de Damas, il partait pour aller s'en prendre aux disciples de Jésus. Il allait s'opposer à ceux qui, selon lui, propageaient l'erreur, ceux qui étaient une secte. Mais là, sur la route de Damas, c'est le Christ ressuscité qu'il rencontre. C'est sa voix qu'il entend. C'est son appel qu'il reçoit. Et dorénavant, il est porte-parole d'une parole vraie. Une parole qui n'est pas un effet placebo, qui n'est pas la résurrection qui l'arrangeait, la résurrection de Jésus qui l'arrangeait, pas du tout, qui correspondait à ses attentes ou ses espoirs, pas du tout. Il a expérimenté comme un choc frontal la véracité de cette parole. Christ est bien ressuscité. Il a vu la beauté de la grâce, il a expérimenté la réalité de cette paix et la grandeur de cette espérance. Et c'est ce qu'il veut communiquer ici à Tite et aux autres. Notez qu'on trouve une salutation qu'on retrouve dans d'autres lettres, mais elle résonne par cette parole véritable, la grâce et la paix. Il veut que cette grâce et cette paix soient communiquées au plus grand nombre. On peut imaginer Tite s'il devait vendre un produit qui n'était pas fiable. un peu comme un vendeur de voitures qui doit vendre des voitures maquillées. Ou alors comme un fournisseur Internet ou fournisseur d'un logiciel informatique qui sait que son logiciel a des bugs. Ce serait difficile d'être dans cette position-là, de voir faire vendre quelque chose alors qu'on sait que le produit n'est pas bon. Mais ce n'est pas la position de Tite. Et ce n'est pas la nôtre si nous sommes croyants ce soir. La promesse que l'on annonce, la bonne nouvelle que l'on annonce, c'est le message d'un Dieu qui ne ment pas. C'est Dieu qui ne ment pas quand il annonce la promesse de la vie éternelle. C'est un Dieu qui ne ment pas quand il fait le diagnostic d'une vie. Et peut-être qu'en lisant le premier chapitre, vous vous êtes dit, mais c'est des paroles un peu crues quand même, pour décrire les Crétois, abominables, goinfres, tous les termes qui sont utilisés, vous dites, il y va un peu fort, non? Eh bien, cette parole, elle est vraie dans le sens que le diagnostic qui est fait est basé sur la vérité, pas estompé. Toutes les choses qu'il dit sont honnêtes, honnêtes sur la banqueroute spirituelle des gens à qui il s'adresse. Mais Dieu ne ment pas non plus quand il parle des solutions, c'est bien une grâce, quelque chose d'immérité, c'est bien une paix qu'il accorde par Jésus. Et quand il parle d'espérance de la vie éternelle, là encore, Dieu ne ment pas, Dieu ne ment pas. Qu'est-ce que ça change si on sait que la parole qui nous est transmise ici est vraie et que Dieu ne ment pas? En début de semaine, aux États-Unis, on fêtait les 50 ans du décès de Martin Luther King. C'est un jour férié. Et le dernier discours de Martin Luther King, vous connaissez peut-être le titre, « J'ai été sur le sommet de la montagne ». « J'ai été sur le sommet de la montagne ». C'est son dernier discours avant qu'il ne soit tué, assassiné. À quoi fait référence cette expression? Eh bien, elle fait référence à la Bible, à Moïse qui monte sur la montagne à la fin du livre de Deutéronome, qui ne peut pas entrer dans le pays promis, mais qui va pouvoir monter sur une montagne et contempler ce pays promis. Le peuple va y entrer, selon les promesses de Dieu, mais lui n'y entre pas. Martin Luther King est très lucide quant au fait que tout n'est pas arrivé à son terme. Dans son discours, il a des choses encore à dire, surtout les progrès qui doivent se vivre au niveau de l'égalité des droits. Mais comme il le dit, j'ai été sur cette montagne, il peut compter sur les promesses de qui ? D'un Dieu qui ne ment pas. Un peu comme un Moïse, qui n'entre pas dans le pays promis, il contemple l'accomplissement de ses promesses sans y avoir totalement goûté. La promesse d'un Dieu qui ne ment pas, c'est ce qui permet de poursuivre, même lorsque le mal semble omniprésent. La promesse d'un Dieu qui ne ment pas, c'est ce qui permet d'aller au-delà du découragement. La promesse du Dieu qui ne ment pas, c'est ce qui permet d'être relevé quand on est découragé face aux obstacles. On a dit tout à l'heure qu'un des thèmes majeurs de cette lettre, c'est la vérité conforme à la piété. Autrement dit, une vérité qui se reflète dans une vie qui plaît à Dieu. Et à partir du verset 5, on voit deux catégories de personnes qui sont évaluées sur la base à la fois de la vérité, mais aussi de leur comportement. Et aussi, on voit que l'enseignement, leur manière de vivre va avoir une influence pour les uns ou pour les autres. Une direction va être suivie selon les personnes qu'on écoute ou qu'on observe, qu'on imite. Et le point qui s'intitule ici, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils sont, ou ce qu'ils font, on pourrait le dire aussi. Verset 5, on découvre qu'une des missions de Tite, c'est de nommer des responsables dans chaque ville. Et là, on peut noter le fait que si l'apôtre Paul a annoncé l'évangile, il ne s'est pas contenté de faire des conférences ici et là, sur l'île de Crète, il a à cœur de structurer l'Église. Il y a une mission de structuration qui doit se faire. Cet après-midi, on a eu une AG. Et peut-être quand vous entendez parler d'AG, vous vous dites procès-verbal, vote, budget, Et ça vous paraît trop administratif, ça paraît trop rigide, trop cadré. Alors, c'est vrai qu'il ne faudrait pas prétendre que tout ce qui se fait et tout ce qui se vit dans une AG n'est pas contestable, questionnable. Mais il y a véritablement besoin de structuration. On en voit les traces ici. C'est pas l'apôtre Paul qui dit « Je vous ai annoncé l'évangile, à partir de là, débrouillez-vous. Vous êtes jetés dans la nature, vous avez tout ce qu'il vous faut. » Il y aura besoin en particulier de responsables. Et comment sont-ils présentés? Eh bien, ils sont présentés comme des anciens, au verset 5. Et ensuite, au verset 7, le deuxième terme utilisé, c'est « évêque » ou « responsable » dans cette version. On pourrait traduire donc « ancien », « évêque », « surveillant », celui qui veille sur. On verrait un troisième terme aussi dans le Nouveau Testament, et les trois semblent interchangeables, par exemple dans Acte 20, « pasteur », « berger ». Les personnes qui vont veiller sur l'Église. D'accord pour les noms, mais comment est-ce qu'on va les choisir? Comment est-ce qu'on va les identifier? Sur quels critères? Est-ce que c'est la base de leur expérience professionnelle? Est-ce qu'ils sont doués en management? Ils ont un bon CV, des compétences? Est-ce qu'on cherche les personnes les plus douées? Et là, vous vous dites, si vous voyez les anciens de la rue de Sèvres, vous dites, ouais, non, ça ne peut pas être ça. Ils ne sont pas doués en management, ils ne sont pas doués en... Mais effectivement, c'est d'autres critères qui sont mis en avant. On voit au verset 6, « Fidèles à leur femme, dont les enfants soient croyants et ne soient pas accusés de débauche ou insoumis. En effet, en tant qu'intendant de Dieu, il faut que le responsable soit irréprochable, il ne doit pas être arrogant, colérique, buveur, violent, ni attiré par le gain, et doit au contraire être hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint, maître de lui. » La première chose qui surprend, c'est qu'on n'a précisément pas affaire à une liste de compétences, mais plutôt une liste qui est dehors du comportement, du caractère. Et c'est une manière de dire qu'il faut une cohérence entre un enseignement et une vie. Et là, est-ce qu'il faut, c'est peut-être la deuxième réaction, se dire qu'on cherche des personnes remarquables, exemplaires, sans défaut. Là, de nouveau, vous dites, le casting n'était pas bon à la rue de Sèvres. Est-ce qu'il faut voir des personnes qui sont parfaites? Non. Chacun des éléments demandés dans la liste est demandé ailleurs pour les autres croyants. On imagine difficilement comment il faudrait des responsables qui ne soient pas violents, mais pour les chrétiens, ça va. Ou alors buveurs, non, les responsables, il faut... Mais par contre, les croyants, là, on peut y aller gaiement, attirés par le gain, pareil. Non, en fait, ce sont des choses que tout chrétien devrait observer. Tout chrétien devrait observer. Mais alors, comment comprendre sans reproche? Ça ne peut pas dire... Ça ne peut pas vouloir dire qu'ils n'ont commis aucun péché, qu'ils ne commettent au présent et même au futur, qu'ils ne commettront pas de péché. Parce que ça reviendrait sur ce qui est dit plus tôt au sujet de la grâce et du pardon qui est accordé à des pécheurs. Mais c'est plutôt de savoir si, sans reproche, ils ne sont pas caractérisés par cela, qu'ils ont une bonne réputation par rapport à cela. Quant aux mentions de la famille, est-ce que c'est et le fait que l'ancien doit prendre soin de sa famille, eh bien c'est des questions, est-ce qu'il est fidèle à sa femme? Est-ce qu'il sait enseigner ses enfants? Est-ce qu'ils sont éduqués, s'il en a? Et derrière ça, est-ce qu'il est en train de bien prendre soin de sa famille? Parce que si ce n'est pas le cas, comment est-ce qu'il prendrait bien soin de l'Église? Quant aux enfants, il faut probablement pas lire croyant dans le sens qu'ils devraient être croyants de Jésus-Christ dès leur naissance, mais plutôt est-ce qu'ils vont être caractérisés par une déroute sur le plan moral, une insoumission à leurs parents, ou est-ce qu'ils sont à l'écoute? Et certainement, chacun des responsables dans l'Église se dit qu'il a du chemin à faire dans sa manière de prendre soin de sa famille, et j'ai du travail à faire dans ma manière de prendre soin de ma famille. Si on a mis en évidence que ce ne sont pas des compétences qui sont mises en avant, il y a quand même quelque chose qui est mis en avant comme compétence. Verset 9, « Attaché à la parole digne de confiance telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable à la fois d'encourager les autres par la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. » Trouve une fois encore l'importance de la vérité. C'est ça qui doit être enseigné. Et ce qui sous-entend vérité sous-entend aussi le fait d'être prêt à dénoncer l'erreur. Les anciens doivent être en mesure d'encourager un enseignement par un enseignement sain, mais aussi réfuter les erreurs. Que ce soit publiquement, mais aussi dans une conversation, d'être à l'affût de ce qui est vrai ou de ce qui ne l'est pas. La vérité est bien et bien le moteur pour tout ce qui se vit dans une église. On est, ces derniers temps, le document n'est pas encore officiellement sorti et j'espère que mes collègues ne m'en voudront pas si je donne un petit extrait de cette vision et de ces valeurs. Mais il y a justement, je trouvais intéressant de relever que les deux premières valeurs mises en évidence dans ce document, c'est un, l'enseignement rigoureux de la Bible. C'est une chose pour laquelle on voudrait que notre Église soit connue. Et l'engagement à vivre une vie nouvelle. Je vous lis un extrait. L'enseignement rigoureux de la Bible. C'est pourquoi nous plaçons au cœur de notre foi et de notre vie d'Église l'étude de la Bible. Nous avons à cœur de creuser cette parole de manière fidèle, profonde et appliquée à la vie d'aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide à le faire. L'engagement à vivre une vie nouvelle. Nous sommes convaincus par les Écritures que le salut offert gratuitement par Jésus-Christ implique de façon naturelle et incontournable un changement profond dans la manière d'envisager le monde et la vie. Autrement dit, ça ne peut pas simplement rester un enseignement. Il va falloir un changement dans nos vies. Que le Seigneur, par sa grâce, nous accorde de vivre cela en tant qu'Église. Tite doit donc chercher des personnes qui sont prêtes à enseigner cela, mais aussi à le vivre. Et je dis cela pour nous en tant qu'Église. Vous devez être à l'affût de cette cohérence et aussi à l'affût de ces incohérences. Et pour notre bien, si nous sommes responsables dans cette Église, nous avons à entendre ce qui doit être dit s'il n'y a pas cette cohérence entre ce qui est annoncé et ce qui est vécu. Mais on voit justement une deuxième catégorie de personnes qu'on peut appeler les faux enseignants. Les faux enseignants dans les versets 10 à 16. Je ne sais pas si vous avez lu ou entendu parler de cette nouvelle, la maison de l'horreur, dont on a parlé dans les médias en Californie. Pourquoi est-ce que c'est une maison de l'horreur qui a été découverte? Eh bien, horreur parce qu'on a découvert que 12 enfants s'étaient vus attachés ou enchaînés chez eux par leurs parents, mal nourris pendant des mois, des années très probablement, des mauvais traitements. Mais ce qui choque aussi, ce qui le rend horrible, c'est l'apparence, le vernis qui était placé devant, que ce soit par les photos prises, les vœux renouvelés de mariage avec chacun des enfants assortis, l'affirmation qu'ils étaient constamment dans des séjours à Disney, ou alors le fait que les parents avaient présenté cette école à la maison comme une école du château de sable, comme si c'était un moyen pour leurs enfants de vivre, de rêver. L'horreur est là aussi. Toute l'apparence pour dissimuler l'horreur. Et dans sa lettre, l'apôtre Paul semble vouloir dénoncer, dévoiler les apparences trompeuses de ces faux enseignants. On a déjà parlé de ce qui caractérisait la population. Mais au verset 10, il fait aussi allusion à des discours creux et trompeurs, surtout parmi qui? Parmi les circoncis. Une manière de décrire ceux qui s'identifiaient comme juifs sur l'île de Crète. Et on le voit par la suite, il y a l'apparence de piété, de respectabilité, mais c'est une manière de cacher la misère d'un intérêt personnel, l'appât du gain. L'appât du gain. Si Tite doit enseigner la vérité d'un Dieu qui ne ment pas, la promesse d'un Dieu qui ne ment pas, nommer des responsables attachés à la parole qui, eux, sont cohérents dans leur manière de vivre. Ce qui caractérise l'autre groupe, c'est l'absence de vérité. Vous voyez au verset 14, ils s'attachent, eux, à des fables juives et à des commandements émis par des hommes qui se détournent de la vérité. Ce n'est pas la vérité, ce sont des fables, des commandements humains. Alors c'est difficile de faire le portrait de ces personnes et je vais aller rapidement vers la conclusion, mais on peut dire qu'il y a, semble-t-il, deux traits qui ressortent, le légalisme et le laxisme. À quoi correspond le légalisme d'abord ? Les allusions aux commandements humains, au fait de s'intéresser à ce qui est pur et impur, c'est une manière pour eux de s'élever que de montrer par leur manière de manger, peut-être, ou par le comportement qu'ils ont, qu'ils s'élèvent vers Dieu, qu'ils sont purs. L'accent sur les commandements humains, c'est une manière de s'élever. Le légalisme est là. Mais en quoi est-ce que c'est mensonger ? C'est mensonger pour eux-mêmes, c'est de se croire juste alors qu'on ne l'est pas. C'est mensonger pour les autres. En quoi est-ce que c'est mensonger ? C'est mensonger sur la manière d'être pardonné par Dieu. L'apôtre Paul et Tite devront l'affirmer. C'est pas de cette manière qu'on a accès à la vie éternelle. C'est par la grâce, par un pardon qui est offert par Jésus. La vérité de l'évangile, c'est précisément d'être prêt à reconnaître qu'on est pécheur par nature et régulièrement le reconnaître. La vérité de l'évangile, c'est reconnaître que ce ne sont pas nos œuvres qui nous sauvent, le bon comportement qui nous sauve. Mais Jésus seulement. Quant au laxisme, à quoi est-ce qu'il correspond ? On voit les traces de ce laxisme dans le fait qu'ils sont insoumis, goinfres, paresseux, ils se laissent aller, rebelles, incompétents pour la moindre œuvre bonne. Une manière de dire qu'ils sont laxistes. En quoi est-ce mensonger le laxisme ? C'est une manière de dire que le laisser aller dans le comportement, c'est pas si grave que ça. À la limite, on est prêt à entendre parler de Jésus, on est prêt à entendre parler de la foi, mais après ça, la manière de vivre, on peut vivre comme on veut. Mais la vérité de l'évangile, c'est que si nous sommes sauvés par la grâce, en dehors des œuvres, notre vie doit être transformée, doit être cohérente. La vérité de l'évangile, c'est qu'il va y avoir des changements si nous croyons le Dieu qui ne ment pas. Comment est-ce qu'on va appliquer cela à nous ? Rapidement, c'est peut-être de deux façons. D'une part, est-ce qu'on est aiguisé pour reconnaître ces deux types de discours, ces deux types de comportements ? Est-ce qu'on est suffisamment au clair sur la vérité de l'Évangile pour identifier un message légaliste ou un message laxiste ? Mais ensuite, il y a peut-être aussi pour nous qui sommes ici, une invitation à une cohérence nous-mêmes, une cohérence dans la manière de vivre et dans la manière de parler. Et en essayant de réfléchir comment amener à une synthèse qui nous permette de donner goût à cette vérité de l'Évangile, qu'est-ce qu'elle pourrait nous faire dire ? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire dire à nos collègues qui nous voient ? Est-ce qu'ils voient des légalistes qui s'élèvent par leur justice ? Est-ce qu'ils voient des laxistes qui en fait croient en Jésus, mais en fait dans leur vie n'ont aucune cohérence ou ne donnent pas du tout envie par leur manière de vivre, ne voient aucun changement ? Et si c'était ça qui leur donnait envie ? On l'a chanté ce matin. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette mon péché. Ça, c'est le premier élément. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Voyez les deux affirmations ? Je ne sais pas pourquoi il m'a aimé. Je ne sais pourquoi, dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi, par son sang, il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Amen.